Est-ce que parfois vous êtes comme moi? Vous avez de la difficulté à seulement écouter quelqu'un qui vient vous voir avec un problème. Donc, après avoir bien écouté la personne, ses problèmes, le contexte, on cherche rapidement des solutions pour enlever cette souffrance le plus possible. Pas vrai? Êtes-vous comme moi? Mais quoi faire quand la souffrance, elle persiste, jour après jour, mois après mois, et même année après année? Comme pasteur et comme conseiller biblique, je vois beaucoup de gens qui souffrent et qui ont des problèmes. Mais je crois que la Bible, elle est pertinente pour tous, pour tous les cas, tous les problématiques. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans votre horaire, dans le petit programme, on va aller voir un psaume, psaume 88 ensemble. C'est un psaume qui donne un exemple de manière de s'adresser à Dieu dans la détresse. Et je pense qu'il est écrit dans les temps difficiles, dans les temps où qu'on souffre, mais que ça continue, que ça persiste, dans un temps que Dieu semble être absent. Donc, c'est un psaume de lamentation. Donc, il y en a environ 37% dans la Bible, dans les psaumes. Mais dans le troisième livre des psaumes, il n'y a aucun psaume de louange. Et ça en fait un parti. L'Éternel a inspiré ce chant qui chante à sa gloire pour un temps de grande détresse. Mais pour sa gloire. Et ce psaume-là, il illustre différents thèmes qu'on va lire ensemble. Un appel à Dieu, la solitude, la mort, des situations de souffrance et même des expressions qui troublent, qui sont inquiétantes. On va lire ensemble. Ce psaume, il risque, je vais juste faire un petit avertissement, d'être inconfortable pour ceux qui exigent que la fin d'une histoire doit être positive. En apparence. Donc, on va méditer le psaume 88 ensemble ce matin, qui fait partie de la révélation divine. Et ce psaume peut être réel pour vous, si vous passez dans un temps de très grande souffrance, surtout si vous avez fait passer dans un temps de prière intensive et que Dieu n'a pas répondu comme vous l'espérez. Ça se peut que vous ne viviez pas de grandes souffrances. Mais ce psaume-là aussi parle aussi à ceux qui sont là et qui vont accompagner ou voir des personnes proches d'eux qui souffrent. Il y a deux termes que j'aimerais vous amener à votre attention pour vous avant qu'on lise. Le mot ami, le mot compagnon qui vient au verset 9, au verset 19, qui parle de comment que la personne, les amis, étaient distantes d'eux. On ne veut pas être de telles personnes. Il y a quelqu'un qui dit, il y a plusieurs personnes qui ont dit, notre rôle en méditant ce psaume n'est pas seulement d'être un auditeur, mais aussi un compagnon de prière pour les promesses auprès des personnes déprimées ou exclues, dont l'état d'esprit est exprimé dans ce psaume. C'est un psaume d'Eman, une prière chantée pour l'adoration à l'Éternel. Juste avant de lire, selon 1 Chronique 25, Eman avait 14 fils et 3 filles. Donc vous allez voir l'importance de savoir ça plus tard. Il était un dirigeant d'un culte à l'Éternel. Et selon 1 Roi 5, sa sagesse est comparée, a été utilisée pour comparer comment Salomon était sage. Donc on voit qu'il était un homme parmi les intelligents que David a mis pour chanter pour le culte à l'Éternel. Il s'adresse à Dieu, sachant qu'il est convaincu que son Dieu, l'Éternel, entend sa prière. Donc, je vais vous inviter à lire, à ouvrir ou à tourner dans Psaume 88. Cantique, fils de psaume de Corée, au chef des chœurs, pour entonner avec la flûte, poème d'Aman, l'Israélite. Je lis dans la version La Colombe. Éternel Dieu de mon salut, je crie le jour et pendant la nuit devant toi. Que ma prière parvienne à ta présence. Tends l'oreille à mon cri, car l'âme est rassasiée de maux et ma vie touche au séjour des morts. Je suis compté parmi ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont transpercés et couchés dans un tombeau. À ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main, tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les bas-fonds. Ta fureur s'apesantit sur moi et tu m'accables de tous tes flots. Tu as éloigné de moi ceux qui me connaissent, ceux que je connais. Tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Enfermé, je ne puis sortir. Mon œil s'éteint de souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel. J'étends vers toi les mains. Est-ce pour les morts que tu feras un miracle? Les défunts se lèveront-ils pour te célébrer? Que dira-t-on ta bienveillance dans le tombeau, ta fidélité dans l'abîme de perdition? Tes miracles sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? Et moi, c'est toi, Éternel, que j'ai appelé au secours. Au matin, ma prière va au-devant de toi. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Me caches-tu ta face? Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse. Je suis chargé de tes terreurs. Je suis troublé. Les ardeurs de ta colère passent sur moi. Tes épouvantes me réduisent au silence. Elles m'environnent tout le jour comme les eaux. Elles m'enveloppent toutes à la fois. Tu as éloigné de moi, amis et compagnons. Ceux que je connais ne sont que ténèbres. Amen. Lourd psaume, non? Le psaume 88 ne comprend pas de modèle typique. À vrai dire, il est unique dans les psaumes. Et une chance qu'il y en a juste un comme ça. Il présente une image si sombre qu'il ne contient aucune louange à la fin, comme d'habitude. Un commentateur l'a qualifié que c'est le coin le plus sombre dans le psautier. Je vous propose de l'étudier en quatre sections. En premier lieu, de versets 2 à 10, qu'on a vu, qui commence par un cri élevé vers Dieu, montrant qu'il garde une relation avec Dieu malgré son désespoir. Eman crie à Dieu dans la détresse. Il emploie le terme « mon Dieu ». Possessif, c'est personnel à lui. Dans « Dieu de mon salut ». Ce que renforce l'idée que Dieu est son sauveur. Pas n'importe qui. Il y a une entente personnelle avec. Cela démontre que le psalmiste qui ne renie pas son alliance avec Dieu. Il reste attaché à son sauveur, à l'idée que Dieu seul peut le sauver, même si ce salut semble introuvable dans l'immédiat. Il utilise l'expression « éternel de mon salut ». C'est donc une confirmation, une affirmation de sa foi, même si qu'il y a une tension avec le désespoir chez le psalmiste. À vrai dire, elle souligne un paradoxe théologique. Même dans la plus grande souffrance et l'expression d'abondance totale, Dieu reste celui qui sauve. Il n'y en a personne d'autre. Et le mot « salut » utilisé là, à la même racine, se retrouve dans le nom de Jésus, Yeshua en hébreu. Et c'est ce que je pense que Matthieu veut faire relever dans Matthieu 1, 21, quand l'ange dit à Joseph, « Tu lui donneras le nom de Jésus ». C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc je pense que cette ouverture dans ce terme-là rappelle la foi, que la foi ne dépend pas nécessairement d'une délivrance visible, mais d'une relation inébranlable, malgré les contextes et les situations qu'on peut vivre avec Dieu. Il nous amène à exprimer à Dieu ce qu'on vit profondément. Et je pense que c'est ce qu'il fait à partir du verset 5 et 6. Je suis compté parmi ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme ou comme un vaillant qui n'a plus de force, qui est étendu parmi, je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont transpercés et couchés dans les tombeaux, à ceux dont tu n'as plus le souvenir, qui sont séparés de ta main, ou bien retranchés de ta main. Le psalmiste décrit une souffrance prolongée, un isolement long, extrême, un genre d'une image, à l'image de. Il donne l'image qui est comptée parmi les morts. Il fait partie de ceux qui ne vivent plus, malgré qu'il vit. Ces afflictions qu'il nomme, mentionnées dans le texte, peuvent arriver à des hommes très vaillants, très en santé. De telles pensées obscures et funestes peuvent les assaillir et peuvent nous assaillir aussi d'un moment de l'épreuve. La fin de leur existence peut être très désastreuse, marquée par une nostalgie et semblant d'une faiblesse dans la foi. Mais ce n'est pas une faiblesse dans la foi. Même si qui apporte cette tristesse devant Dieu, cette souffrance à celui qui a tout pouvoir, qui peut toutes choses, il continue à persévérer, à prier dedans. Mais à partir du verset 7 et 10, on voit Eman attribuer la souffrance à Dieu et même percevoir un abandon. Je vous le lis. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans le bas-fond. Ta fureur s'est appesantie sur moi. Tu m'accables de tous tes flots. Tu as éloigné de moi ce que je connais. Tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Enfermé, je ne puis sortir. Mon œil s'étend de souffrance. Waouh! Ce que vit Eman est très affecté par la tristesse. Et il dit qu'il est infligé par Dieu. Le psalmiste ne laisse pas croire que Dieu permet seulement la souffrance, mais bien que l'Éternel crée la diversité pour lui. Un peu comme l'Éternel va dire à Isaïe, dans Isaïe 45. C'est lourd. Il déclare comme ça la souveraineté de Dieu, que l'Éternel l'a placé dans les profondeurs, à l'écart. En plus de cela, il n'y a personne pour être consolé. Il n'y a personne pour venir pleurer avec lui. Il n'y a personne pour venir prier avec lui, pour le fortifier dans le Seigneur. Même l'amour que Dieu éprouve pour ses enfants peut parfois vivre comme si l'Éternel est en colère contre nous. Et ça, c'est une des terrible épreuve qu'on peut vivre de croire que Dieu est en colère contre nous. Mais pour Eman, Dieu reste le seul à qui il peut prier, qui peut crier et qui peut supplier. Personne d'autre n'est son salut, son sauveur. Je ne sais pas si vous prenez, vous goûtez la lourdeur de ce psaume, de ce chant, de ce que vit Eman. Une accablante douleur. Et tout comme une situation qui nous limite, on est impuissant. Une situation qui l'accable, qui le poursuit. Et je pense qu'Eman a une bonne théologie. Dieu est souverain. Il contrôle tout. Il n'y a personne à qui crier et à qui aller vers. Et même, je pourrais dire que c'est quand on crie encore à Dieu que la foi subsiste, même quand dans la nuit la plus sombre. Mais on peut se poser une question. Pourquoi Dieu ne répond pas aux prières d'Eman, lui qui est un chantre, pour la gloire de Dieu? Pourquoi qu'il n'enlève pas cette épine chez Eman? Ça me fait penser à la question, comment nous, allons-nous nous comporter lorsque la détresse nous accable? Comment nous allons nous comporter lorsque nous voyons des ténèbres devant nous continuellement? Comment être pour quelqu'un qui cherche un travail et que même McDo ne le rappelle pas? comment on va être quand quelqu'un perd toute sa famille d'un malheur tragique. Et il y a tout d'un coup une maladie rare qui l'atteint, contagieux, qui le frappe. Comment on va agir? Je pense que la réponse, pas nécessairement comme on voudrait, est dans la deuxième partie du verset 10, qui est comme une interlude, le centre du psaume. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel. J'étends vers toi les mains. C'est la deuxième section, très courte. Un cri de persévérance dans la souffrance, qui, je crois, est l'attitude des mânes, qui nous appelle à avoir, nous aussi. L'attitude de persévérance et de souffrance dans la souffrance. À la suite d'une description physiologique de comment son corps réagit et qui est probablement, c'est probablement pour représenter tout ce qui se passe psychologiquement et aussi physique, le souffrant crie à l'Éternel avec une insistance. C'est un modèle à suivre. La précision de tous les jours démontre une constance. Et le terme « étendre les mains vers l'Éternel, j'étends vers toi les mains » démontre une ardeur dans la prière. C'est une description pour faire comprendre ce qui se passe dans son cœur. C'est un cri de persévérance dans la souffrance. Dieu est la seule personne capable de délivrer le Dieu de son salut. C'est l'Éternel. C'est personne d'autre. La prière semble être une attitude quotidienne pour lui et non une situation d'urgence. Et non un outil de dernier recours. Il continue de prier malgré le silence de Dieu à sa demande. Mais le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu est absent. Mais pour celui qui souffre, ce silence est parfois plus dur que la souffrance qu'il subit elle-même. Et je pense que le cri d'Eman, destiné, qui est ce chant qui est destiné à l'adoration à Dieu, enseigne à l'assemblée à avoir une compassion pour ceux qui souffrent, ceux qui sont dans cette douleur-là, une motivation à crier à l'Éternel. Et cela, même s'il n'y a aucune situation à apporter, solution à apporter. Moi, je me rappelle quand j'étais dans une des grandes afflictions, il y a des gens qui sont portés les fardeaux avec moi. Il n'y avait pas de solution. Des gens ici dans l'assemblée qui ont prié avec moi, qui étaient à genoux avec moi. Malgré qu'il n'y avait pas d'autre solution que d'attendre le salut de Dieu. Nous sommes plusieurs à être portés à vouloir aider notre prochain en portant les fardeaux, comme Paul l'a dit aux Galates au chapitre 6. Ça, c'est bien. Mais j'aimerais nous exhorter par aider à porter les fardeaux n'est pas nécessairement de enlever le fardeau, mais à porter la charge avec l'autre. Car c'est seulement l'Éternel qui peut l'enlever. Alors, quand on ne peut rien faire, on peut faire quelque chose. On peut prier ensemble. On peut pleurer ensemble. On peut attendre ensemble. Comme l'ont fait les amis de Job. C'est la seule chose qu'ils ont fait de bon. Ils ont prié, pleuré pendant 7 jours. On peut apprendre de ça des autres. Dans ce silence de Éman, qu'Éman vit, il continue à parler à l'Éternel. Et dans la troisième section, il agit comme David. Mais juste avant de lire la troisième section, versets 11 et 13, j'aimerais vous dire qu'est-ce que deux exemples de David. Dans le psaume 6, il dit « Reviens Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts ?» Et dans le psaume 30, il dit « Éternel, je crie à toi, j'ai imploré Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse ?» La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Éman contemporain à David, va nous dire quelque chose de similaire à cela. Au verset 11, il dit, « Est-ce pour les morts que tu feras un miracle ? Les défunts se lèveraient-ils pour te célébrer ? Retira-t-on ta bienveillance dans le tombeau, ta fidélité dans l'abîme de perdition ? Ton miracle ou tes miracles sont-ils connus dans les ténèbres ? Et ta justice dans la terre de l'oubli ?» Il fait des questions rhétoriques. Il connaît très bien la réponse. Mais Eman crie sur le silence de Dieu. Eman interroge Dieu. En résumé, il dit, est-ce les morts qui te louent? Ils vont-tu te louer encore, les morts? Ce questionnement souligne et amène une absence de réponse positive de Dieu à Eman. Et la mort est représentée comme la chose, la pire chose. Un lieu ténébreux et d'oubli. Avoir une telle vision de la mort n'est pas étonnante que Eman crie, continue et implore l'intervention de Dieu. Qu'il soit difficile d'envisager un avenir positif dans sa condition. Malgré le silence qui fait vraiment écho à des questions de persévérance dans la prière. Il parle à son Dieu. Le fait que la réponse à nos prières se fasse souvent attendre ne doit pas nous empêcher de persévérer dans notre dialogue avec notre Dieu, le Dieu de notre salut. Rien n'est plus souffrant pour un enfant de Dieu de penser que son Créateur l'a oublié. D'être ignoré dans nos demandes. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il parle de la terre de l'oubli, ça fait penser à la création dans Genèse 1, verset 2. Tabou comme. C'est un tabou. C'est informe et vide. Et Eman utilise ce terme-là pour dire sa situation. Les enfants de Dieu peuvent être exposés pour un temps à vivre des moments très difficiles. C'est exactement ce que Jésus a vécu dans le jardin avant l'arrestation injuste. Et le Père est resté silencieux et a laissé Jésus vivre la plus grosse injustice qu'aucun humain peut vivre et va vivre. Jésus a vécu cela. Dans les questionnements des manes à Dieu, il fait une comparaison, si vous regardez bien, versets 11 à 13. Et c'est intéressant de voir cette comparaison qu'il fait. Il fait la mort versus les miracles, au verset 11. Il fait les bontés versus le sépulcre, au verset 12. Il fait la fidélité versus la perdition, encore au verset 12. Il fait les prodiges versus les ténèbres, au verset 13. Il fait la justice versus l'oubli. En d'autres mots, il est en train de dire à l'Éternel, qu'attends-tu pour me délivrer? Il sait que Dieu a tous ces attributs-là. Je ne pourrai pas te louer après la mort. Manifeste ta gloire dans ma vie. Voilà ce que Eman est en train de dire et de persévérer dans la prière. Tout comme Eman, nous sommes appelés à crier à l'Éternel dans nos souffrances, parce qu'il a le pouvoir de le faire. Eman persiste auprès de son Dieu, auprès de son Sauveur. Il persiste. On devrait faire la même chose aussi. Vous cherchez un travail depuis longtemps, les portes sont fermées. Persévérez, priez, cherchez du travail en croyant en l'Éternel, votre Seigneur. Vous êtes malade? Continuez à prier et consultez un médecin en ayant la foi en l'Éternel, votre Seigneur, votre Sauveur. Vous souffrez émotionnellement dans votre cœur et dans vos pensées, persévérez et priez. Ne restez pas seul. Venez partager vos fardeaux avec l'église locale dans la foi en l'Éternel qui vit éternellement. Toute cette persévérance doit se faire en se rappelant les attributs de l'Éternel. C'est pour cela qu'on le prie. C'est le Dieu de notre salut. Et si on va à la dernière partie, à la dernière section, les versets 14 à 19, Il semble que c'est une répétition des mêmes thèmes, mais de manière différente, plus intense et toujours sans réponse. Si on lit les versets 14 et 16, on voit comme un genre d'abandon dans le silence. Et moi, c'est toi, Éternel, que j'ai appelé au secours. Au matin, va au-devant de toi. Au matin, ma prière va au-devant de toi. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Me caches-tu ta face? Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse. Je suis chargé de tes terreurs. Je suis troublé. Et c'est un cri continuel d'absence de réponse. Et si vous regardez bien, c'est la troisième fois qu'il implore l'Éternel de manière persistante au verset 2, au verset 10 et au verset 14 et 15. C'est la troisième fois l'emphase. Il ne parle pas à son prochain, il parle à l'Éternel. Il ne se plaint pas à d'autres, comme Jacques nous dit dans le chapitre 5. Il s'adresse à l'Éternel. Il fait sa complainte auprès de l'Éternel. Il invoque. La pertinence à prier est encore démontrée à travers les questionnements par lesquels il tente de relever l'espoir. Il est proche de mourir depuis très longtemps. Il perd conscience de ses repères. Il est bouleversé. En effet, on peut déduire que la seule réponse reçue et perçue par Éman, c'est que Dieu envoie sa fureur. C'est la terreur de l'Éternel qui l'environne, qui l'enveloppe pendant qu'il persévère dans les pleurs auprès des tourments qui l'assaillissent. C'est ce que je pense qu'il détaille au verset 17 et 19. Un genre de désespoir total, ou même que ses proches s'éloignent. Les ardeurs de ta colère passent sur moi, tes épouvantes me réduisent au silence, elles m'environnent tout le jour comme les eaux. Elle m'enveloppe toute à la fois. Tu as éloigné de moi amis et compagnons. Ceux que je connais ne sont que ténèbres. Ou bien, si vous avez une autre traduction, je n'ai comme compagnie que des ténèbres. Si nos amis se sont éloignés de nous, nous abandonnent dans notre chemin, dans notre destinée qui va vers la mort, cela peut avoir pour nous de nous plonger encore plus profondément dans notre affliction et voir tout noir. Après avoir rappelé que l'Éternel est souverain dans sa souffrance, il revient sur l'expression de son sentiment de souffrance et qu'il est proche de la mort. Et comme au verset 19, au verset 9, il rappelle l'éloignement de ses proches, l'éloignement le plan dans le désarroi. Il y a 14 fils et 3 filles. C'est beaucoup d'enfants, ça, non? Il est loin de ses proches. Il ne reste que l'Éternel. Éman semble être un exemple de la façon que Christ allait vivre pour nous. Et le prophète Zacharie l'avait prophétisé en avant, comment que les proches du berger allaient le quitter. Et Jésus, le grand berger, en effet, a vécu ce sentiment d'abandon. Et Jean nous le dit dans Jean 16. Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais, Jésus ajoute, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Jésus a vécu cet isolement intense de ses proches. Et Marc, dans Marc 14, il nous rappelle la prière de Jésus. Il, en parlant de Jésus, disait, « Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, qui était la mort de la croix, injuste. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et on voit au verset 39, il fit la même prière encore. Cette prière, faite dans le jardin, son père est resté silencieux, malgré l'insistance. Jésus comprend ce silence. Et au verset 50 du chapitre 14 dans Marc, il dit, alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Jésus a vécu l'isolement de ses amis, de ses compagnons, le silence de son père. Il faut rappeler que ce chant se termine par une note désespérée. À vrai dire, la dernière phrase exprime le sentiment total ressenti par le psalmiste. En effet, le dernier mot, c'est ténèbres, dans l'original. Soit pour dire que ses connaissances intimes ne sont que des ténèbres, dans « Tu as mis au loin de moi amoureux et amis, mes connaissances intimes sont que des ténèbres. » Mais je crois qu'il y a une petite nuance de plus, c'est pour dire comme conclusion, une forme de résumé de la situation devant l'Éternel, en disant « Tu as éloigné de moi amoureux et amis, ceux qui sont connus de moi ou ceux qui me sont intimes. » Point. Ténèbres. Dans tous les cas, il ne va pas bien. Êtes-vous d'accord? Il attend auprès de l'Éternel sa souffrance. Ça fait un peu nous rappeler Naomi, qui revient de Moab et dit « Appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » Et man, c'est un peu similaire. Abandonné, il est seul dans les ténèbres. Jésus va être seul aussi dans les ténèbres. Il va le crier, un cri similaire à la croix. Lui qui a aussi vécu l'isolement de son père et de ses proches. Dans Marc 15, verset 34. Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani ?» Ce qui signifie, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» qui est le premier verset de psaume 22. On pourrait décrire le psaume 88 comme une marche dans les ténèbres, sans voir de lumière au bout du tunnel. Une confiance acharnée qui reste sans espoir. Mais ce psaume est dans la Bible. Dieu l'a voulu que cette prière désespérée soit là. Parce que dans notre vie de foi, il y a des moments qu'on risque de vivre cela. Ce texte nous enseigne à crier à l'Éternel, mais à garder Christ qui nous comprend. Jésus l'a vécu. Hébreux 4, texte que j'aime beaucoup, nous le précise. Ainsi, nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir avec nos faiblesses, à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Ce psaume nous révèle comment crier à Dieu, mais encore plus, il révèle comment le Messie, Jésus-Christ, allait souffrir pour toi et pour moi. Pour avoir une espérance éternelle, ici-bas, avec plusieurs maisons, plusieurs familles, mais on oublie souvent de dire avec des tribulations et des souffrances. Jusque dans la vie éternelle. La vie éternelle, il n'y aurait plus de souffrance. Il n'y aurait plus de péché. La foi véritable ne dépend pas de nos émotions. La foi véritable persévère même quand tout semble perdu. Il y a plusieurs exemples bibliques qui relatent la même situation que ce psaume. Mais on ne peut pas passer sans parler de Job. Dans Job 19, Job dit comme ça, « Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. Voici, je crie à la violence et nul ne répond. J'implore justice et point de justice. » Il m'a fermé toute issue, je ne puis passer. Il a rendu des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. Il m'a brisé de toutes parts. Je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Ses troupes, ce sont des concerts mis en marche. Elles se sont frayées leur chemin jusqu'à moi. Ils ont campé autour de ma tente. Il a éloigné de moi mes frères et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Job et Eman vivaient une chose similaire, non? L'éloignement de leurs intimes. Comme Joseph, qui était seul, qui a vécu l'injustice, qui a été exclu de ses proches et même trahi par ses frères. Tous ces textes présentent ce que Jésus allait vivre. Et dans notre souffrance, on peut penser qu'on est seul. Un peu comme Élie, qui pensait qu'il était seul dans 1 Roi 19. Mais il n'était pas seul. Que Dieu nous dit. Par contre, Eman ici, je crois qu'il était seul. Et même plusieurs évoquent qu'il avait une maladie comme la lèpre. Dans tous les cas, il est seul à persévérer, à invoquer dans la prière à l'Éternel, le Dieu de son salut. Mais en ne recevant que le silence et les terreurs pour réponse. Il y a des situations qui sont difficiles qu'on va passer, qu'on risque de passer. Et qui est difficile à exprimer parce que c'est tellement profond et douloureux. Il n'y a pas de solution externe qui peut soulager. C'est seulement le Dieu de compassion qui peut atteindre et guérir ces situations-là. Eman, ici, nous apprend comment aller à l'Éternel, mais surtout de ne pas aller ailleurs que l'Éternel. C'est la seule place où aller, d'aller avec confiance qui écoute, malgré les apparences, d'aller dans les mains de l'Éternel, auprès de lui. Il nous enseigne par sa foi agissante. Il semble troublé par la souffrance et en plus par le silence de Dieu. Mais comme le mentionne Paul dans 2 Corinthiens 4, verset 8, il est abattu, mais non perdu. Nous voyons qu'Eman croit encore, même si que tout en lui crie le désespoir. Ce beau psaume 88, qu'on ne lit pas souvent, parce qu'il est vraiment sombre, se termine sans apparence de délivrance, sans lumière au bout du tunnel. Pourtant, ce psaume porte un message profond pour nous les croyants. Dieu est digne d'être prié même quand le silence se perdure, même dans la douleur continuelle. Ce chant à Dieu, parce qu'il faut bien dire, c'est un chant à Dieu, nous rappelle que la Bible ne nie pas la souffrance ni les réalités de notre monde brisé par le péché. Il est là pour ceux qui traversent des temps prolongés, pour ceux qui n'ont pas encore reçu de réponse positive à leurs prières. Il nous montre que Dieu n'est pas indifférent à nos cris et qu'il est fidèle même que lorsque il semble silencieux. Il a pourvu ce chant à sa gloire. Et nous voyons un Eman, un homme brisé, mais persévérant dans la prière. Il ne cache pas son désespoir, mais il continue de s'adresser à qui? À l'Éternel. Similaire aux évangiles qui ne cachent pas la souffrance et l'angoisse que Jésus a vécue à Gethsémani, que Jésus a prié avec une âme troublée avant la croix. Jésus a souffert les pires douleurs que personne ne pourra souffrir. La pire injustice, celle de la colère divine, afin que nous soyons réconciliés avec lui, avec Dieu. Grâce à son sacrifice, nous n'aurons jamais à vivre l'abandon total qu'il a subi à la croix pour nous, à notre place. Personnellement, ce psaume 88, je l'utilise beaucoup auprès de ceux qui souffrent depuis longtemps. Il m'aide à prendre le temps pour pleurer avec ceux qui souffrent. Comme, par exemple, accompagner une veuve nouvellement endeuillée et qui perd ses enfants d'un coup par un accident d'auto. Un camion les a tous fracassés. Et cette même journée, elle apprend qu'elle perd son travail à cause de réanimation gouvernementale. Et elle tombe malade d'une maladie très rare et elle est mise en quarantaine. Elle ne peut pas avoir de visite de l'Église. Il semble que le psaume 88 est approprié à prier et à chanter dans ce contexte-là. C'est une invitation personnelle, le psaume 88, et collective à prier dans les ténèbres, à pleurer devant Dieu, à être une communauté de compassion. Un psaume qui nous pousse à une foi qui persévère, même dans l'obscurité, et en attente dans cette lumière qui viendra, même quand il y a au-delà du silence. Il ne propose pas une foi façade. Non. Mais une foi qui endure, qui chante, qui prie, qui espère, même quand l'espérance d'une délivrance immédiate n'est pas. On a quelque chose contre nous aujourd'hui. Pour faire ça, on est dans une ère qui ne nous encourage pas. On est dans une ère de rentabilité qui recherche des solutions rapides, qui recherchent le plaisir immédiat. C'est encore plus difficile alors de tolérer la souffrance. Nous sommes entraînés à vouloir des résultats rapidement, si ce n'est pas maintenant. Mais soyons clairs, le psaume 88, son but n'est pas de fournir une solution à des problèmes, mais plutôt d'inviter les gens à s'adresser à l'Éternel, le Dieu de salut, à persévérer dans la prière, même quand les ténèbres nous environnent. Cette chanson nous inculque et nous enseigne à soutenir ceux qui souffrent en partageant leur chagrin sans leur imposer de réponse simpliste. Et Paul nous invite à cela dans Romains 12, verset 15. « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Si l'Éternel n'est pas ton Dieu, ton Sauveur, de tes péchés par la personne de Jésus dans son sacrifice à la croix et sa résurrection, je t'invite aujourd'hui qu'il soit à mettre ta confiance totale en ce Sauveur qui contrôle toute chose, toute situation, pour être capable par la suite de fuir les soucis de nos temps, de résister aux tribulations qui est prévues et de pouvoir dire non aux séductions de la richesse, comme le dit Jésus dans Matthieu 13 dans le sermon dans la parabole du semeur, que tu puisses crier à lui sans cesse, car l'Éternel écoute et porte du fruit même dans la souffrance. Jésus écoute. Même dans la détresse, Jésus est là. L'Église continue. L'Église n'est pas appelée à être un spectateur qui regarde quelqu'un qui souffre. L'Église est là pour être un ami, un frère, un compagnon, dans les larmes, dans les prières auprès de ceux qui souffrent. C'est un appel à une adoration sincère, une foi qui continue de regarder vers Dieu, même quand la douleur persiste. Enfin, conclusion, le psaume 88 finit pas juste là. C'est pas la fin de l'histoire. Il s'inscrit dans un récit plus vaste de tous les psaumes. Le psaume qui suit, c'est le psaume 89, aussi lourd. Mais il commence comme si « Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel, ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. » Et après ça, en faisant illustrer les attributs de l'Éternel, vient une très lourde lamentation. Mais il finit par « Béni soit jamais l'Éternel. Amen. Amen. » Et encore plus vaste que cela, le psaume 88 s'inscrit dans la délivrance ultime en Jésus-Christ où la lumière finit toujours par triompher. En attendant le retour glorieux de Christ, continuons à prier, à chanter, à croire, même si la vallée des pleurs que son 84 illustre se prolonge dans les ténèbres, oui, même dans la nuit sombre qu'on peut vivre pendant des années, crions à Dieu. Même dans le silence, continuons de se tourner vers l'Éternel, notre Dieu, notre Sauveur. Car la lumière viendra, sa louange triomphera en Jésus, le Dieu de notre salut. Amen.